Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figures de l'Histoire. Nous sommes au XIVe siècle. Angleterre et France se sont déjà affrontées depuis qu'Édouard III, roi d'Angleterre, petit-fils de Philippe le Bel, prétend être aussi roi de France, puisque, dit-il, « Je suis le fils d'Isabelle et les trois fils de Philippe sont morts sans héritier mâle. » Alors la couronne est passée non pas à une femme à l'époque, hein, mais à un cousin, Philippe VI de Valois. Donc ils veulent se battre, Édouard III et le roi de France. Alors jusqu'alors, on se bat dans des batailles face à face, c'est réglé par des codes de chevalerie. Eh bien, une nouvelle chevalerie se crée avec deux ordres. L'ordre de la Jarretière qu'Édouard III crée en 1348 et l'ordre de Jean le Bon, roi de France, en 1351. Ces nouveaux ordres de chevaliers exigent la fidélité sans condition et sans rival à son roi. Il n'est plus question pour un seigneur de se dévouer à quelqu'un d'autre ou d'avoir même des alliances. Le pape approuve. Pourquoi est-ce que je vous dis le pape approuve ? Ben c'est qu'à l'époque, le pape fait beaucoup, beaucoup de politique et se mêle beaucoup des alliances. La semaine dernière, je vous ai dit qu'Édouard III envisage de nouveau la guerre avec la France. Eh bien, le roi de France, Jean le Bon, s'y prépare aussi. Dès avril 1351, il organise un contrôle permanent des effectifs et de l'armement. Les inspections sont effectuées sans prévenir. Et entre 1355 et 1356, les maréchaux et les lieutenants du roi de France multiplient les revues. Et voilà que les hostilités commencent. Alors, Édouard III veut entreprendre une action de grande envergure dans le nord de la France. Et en même temps, il envoie son fils, le prince noir, il a 25 ans à l'époque, en Guyenne, en se disant qu'ainsi, Jean le Bon, il sera occupé sur deux fronts, donc il ne gagnera pas. Plusieurs fois, d'ailleurs, le père du prince noir lui a donné le royaume à garder, et plusieurs fois, il a combattu, en particulier à Crécy, c'est un mauvais souvenir pour nous, ça. Hein. Le 5 octobre, donc, il lance une chevauchée vers le sud. Je parle du prince noir. Hein. Les châteaux tombent, les villes cèdent, il ramasse un butin énorme. Son point de vue, c'est semer la terreur. L'armée française, elle, ne sait pas où donner de la tête. Subjuguée par l'audace du prince noir, en quelques jours, Jean le Bon se voit pas fortifier le Languedoc. On est en novembre, l'hiver arrive, le prince noir ne négocie pas, il préfère se retirer, parce qu'en fait, sa chevauchée, ce n'est pas une chevauchée de conquête. C'est trop cher de garder quelque chose qu'on a conquis. C'est simplement pour montrer qu'il est puissant. Le jour de Noël, le prince noir écrit donc depuis Bordeaux à son père que sa mission est accomplie. Et pendant ce temps-là, que fait Édouard III ? Eh bien, il ravage l'Artois. Jean le Bon a convoqué son armée à Amiens, mais quand il arrive, Édouard III lui dit « C'est trop tard, on a trop attendu, je refuse la bataille ». Je vous rappelle qu'à l'époque, on se mettait d'accord pour se battre face à face. Chacun rentre donc chez soi. Édouard III à Calais, parce que je vous rappelle que Calais appartient à l'Angleterre. Le prince noir à Bordeaux et Jean le Bon à Paris. Et on va préparer, bien sûr, la prochaine campagne. Eh bien, le roi de France, il est bien inquiet. Et c'est toujours la même chose, parce que pour préparer la guerre, il faut de l'argent. Or, la situation financière de la France est catastrophique. Les coffres sont vides. Pour avoir des subsides, il faut négocier et convoquer les États généraux, c'est-à-dire les représentants des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers état. Ceux-ci se réunissent le 2 décembre 1355 dans le palais de la Cité. En fait, il manque les représentants du Sud à cause du prince noir. Et qui mène le jeu, c'est Paris. Qui mène le jeu avec un monsieur, prévôt des marchands, on va dire chef des marchands, Étienne Marcel. Les trois États sont d'accord pour aider le roi, mais de quelle façon? Eh bien, ce sera un impôt de 8 deniers par livre sur toutes les ventes. Les États donc désignent une commission pour veiller à ce que l'argent soit bien employé pour la guerre et pas pour autre chose. Et cet argent, eh bien, il est difficile à faire rentrer. Bien des villes ne veulent pas payer. Pendant ce temps-là, des complots se fomentent. On se débarrasserait bien du roi. Pourquoi est-ce qu'on ne s'adresserait pas à l'empereur Charles IV de Luxembourg? Ce dernier n'aime pas Jean le Bon. On peut dire que Jean le Bon le lui rend bien. Alors, le complot se forme. Un complot carrément fait pour assassiner Jean le Bon. Mais alors, le complot est éventé et le roi donne à son fils le duché de Normandie. Autour du dauphin, installé donc à Rouen, se crée un complot encore pour assassiner le roi et mettre ce dauphin, qui s'appelle Charles, à sa place. Et encore une fois, Jean le Bon est informé. Alors, il était colérique, Jean le Bon, en colère. Donc, il prend avec lui une petite troupe et il fonce vers Rouen. Nous sommes le 5 avril 1356. Le duc de Normandie, c'est-à-dire le fils du roi, a prévu un banquet avec des amis. Tout le monde est à table et le château n'est pas gardé. Jean le Bon entre par la poterne, c'est-à-dire par une petite porte. Il grimpe l'escalier avec son sergent. Ce dernier donne un grand coup de masse dans la porte pour obtenir le silence. Le roi de France n'a pas l'air de se souvenir qu'il est chez son fils. Il fonce sur son gendre, le roi de Navarre. Il l'agrippe en proférant « Debout, traître ! Tu n'es pas digne de t'asseoir à côté de mon fils !» Le roi de Navarre est emmené manu militari. Alors Charles, quand même, il se plaint à son père. Mais Jean est trop en colère pour l'écouter. Plusieurs barons sont même arrêtés. Ils sont exécutés. Dans l'entourage du dauphin, on peut dire que la terreur règne. Le roi de Navarre, lui, est emprisonné à Paris, d'abord, puis dans une forteresse près de Douai. Et pendant que les intrigues font éclater le coup de tonnerre de Rouen, la politique financière échoue. Alors, nouvelle réunion des États généraux, le 8 mai. Et à cette occasion, on voit se dresser face à l'autorité du roi, celle d'Étienne Marcel. Il pense que l'intérêt du roi et celui du milieu des affaires parisiens sont très voisins. La guerre, c'est le blocage des routes économiques. La prospérité de Paris s'accommode mal de combats sur la Seine. Que l'anglais reste tranquille à Calais et les bateaux continueront de descendre le fleuve chargés de vin et de bois et de le remonter avec du blé, du sel, du foin et des fruits. Tout irait bien si l'impôt rentrait, mais il n'en est rien. Tout le monde grogne car la dévaluation est là et les prix flambent. Nous allons faire une première pause musicale.
Good.
Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la guerre de Cent Ans et en particulier les démêlés entre Édouard III et Jean le Bon. La guerre va reprendre, seulement on manque d'argent et on a convoqué les États généraux. Et lors de ces États généraux, quelqu'un se montre opposé au roi, c'est Étienne Marcel, le prévôt des marchands. Édouard III a installé le prince noir en Guyenne, et puis son fils, le duc de Lancastre, en Normandie. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il veut se consacrer à l'Angleterre. Le duc de Lancastre, installé près de Saint-Val-à-Hougues, commence ses exactions. Les Anglais brûlent Vernon, les faubourgs de Rouen. Il décroche quand il entend dire que les Français approchent. Jean le Bon, lui, concentre ses forces sur la basse Seine et se dirige donc vers Lancastre. Il cherche l'ennemi pour le contraindre au combat. Le face-à-face se produit devant l'Aigle le 8 juillet 1356. Les adversaires se regardent. Il ne se passe rien. Le jour passe. Le lendemain matin, les Français voient derrière une longue haie la silhouette de la cavalerie anglaise. Le temps passe. Les Français s'énervent, disent « Ben, où sont donc les Anglais ?» Qu'est-ce qu'ils veulent, là, ces cavaliers qui ne bougent pas? Et l'armée anglaise qui est derrière? Tout à coup, les cavaliers anglais piquent des deux et s'évanouissent. Alors, Jean le Bon se dit, alors où est l'armée anglaise? Et il envoie quelqu'un voir ce qui se passe. Eh bien, derrière la haie, figurez-vous qu'il n'y a personne. Les paysans disent que les Anglo-Navarrais sont partis depuis la veille, laissant les cavaliers comme leurs. Alors, Jean le Bon estime avoir été grugé. Il vient mettre le siège devant Breteuil, une place forte dans laquelle se trouve l'ennemi. Et Breteuil se rend. Ah, Jean le Bon, il est tout content. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'armée du prince noir et celle de son frère Lancastre, aidée de Philippe de Navarre, son gendre, ont décidé de se joindre en pillant au passage, bien sûr. Eh bien, Jean le Bon, finalement, va être pris en tenaille. Alors il réunit de nouvelles troupes, il engage des Lorrains, des Suisses, des Allemands, des Écossais. Toute la chevalerie française et ses mercenaires se retrouvent à Chartres début septembre. On se dirige vers la Loire. Les deux armées se trouvent face à face à Noyers près de Poitiers. 10 000 Anglo-Saxons, 20 000 Français. On se dit, ben alors les Français vont gagner. Ah oui, mais on est dimanche et on ne se bat pas ce jour-là. Alors, c'est alors qu'intervient le cardinal de Talleyrand-Périgord, ancêtre de Talleyrand que nous connaissons bien, qui essaie d'éviter l'affrontement. Le prince de Galles accepte de traiter, mais pas Jean le Bon, qui parle comme s'il était déjà vainqueur. Ben oui, il se dit avec mes 20 000 fantassins, c'est moi qui vais gagner. C'est une question d'honneur. La couronne de Saint-Louis ne saurait pas être interdite. Alors on se prépare à la bataille. Jean le Bon cherche la victoire par la prouesse. il va jusqu'à descendre de cheval et batailler à la hache. Alors, je vous passe les détails, mais il manque au roi simplement le sens de la tactique. On fait des prisonniers des deux côtés et, ultime catastrophe, Denis de Morbecque fait prisonnier le roi de France. Warwick, maréchal d'Angleterre, s'incline devant le roi de France, mais il est prisonnier. Alors, il reste quand même des règles de chevalerie, si bien que Jean le Bon est tout à fait bien traité. Il est conduit devant le prince noir, qui lui fait parcourir les routes du Poitou, de Langoumois, pour gagner Bordeaux. Le prince de Galles traite le roi de France avec les plus grands égards. Plus il l'honore, bien sûr, plus il souligne la valeur de sa prise. Alors, ce qui tourmente Jean le Bon, c'est que son fils Charles le Dauphin, il s'est enfui de la bataille.